Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Alors petit changement de micro, quelque part, puisque je viens de changer de téléphone portable pour prendre un iPhone 12 mini. En fait, je l'avais depuis très longtemps, je l'ai acheté il y a 4 ans, et j'ai dû acheter un iPhone 12 Pro, parce que je voyais pas mon iPhone 12 mini. Mais comme je viens d'investir dans des lunettes progressives, parce que je suis vieux, et que ça y est, je vais faire tous les gestes des vieux, je vais regarder les gens par en haut, je vais baisser la tête, je vais plus regarder de côté, je vais tourner la tête comme ils font les vieux. Sachez que c'est à cause des lunettes, s'ils font ça, c'est pas du tout dans leur nature. Donc, je vais me retrouver à faire plein de gestes de vieux, mais pour le coup, j'ai donc les lunettes progressives qui me donnent un vertige pas possible, ça fait que 2 jours que je les ai, mais c'est dur, c'est super dur de s'habituer à ce truc-là, c'est vraiment totalement différent. Mais pour le coup, je vois très très bien. Donc, retour de l'iPhone mini qui était le format que je préférais. Et c'est un tout petit appareil qui tient dans la poche, qu'on oublie tout le temps. On dirait un gadget, un petit jouet. Et il est surpuissant, survitaminé, je l'adore. Bon, moi là, j'allais descendre, mais c'est plein de boue. Oh là là. Oh là là, j'y vais pas. Bon, demi-tour. Non, la forêt est humide. Bref. J'espère que ça va chez vous. Donc c'était une manière de vous dire que j'expérimente quelque chose que vous connaîtrez tous ou que vous connaissez déjà, à savoir les lunettes progressives, et c'est l'enfer sur Terre. Mais en même temps, on a l'impression d'avoir une vision laser, c'est-à-dire que tout est flou sauf ce qu'on regarde. C'est très bizarre. Voilà. Là, je marche dans un monde qui danse. Des fois même, quand j'ai le téléphone sur le côté, pas en face de moi, mais sur le côté, je le vois oblique. J'ai l'impression qu'il a été conçu de manière oblique. C'est très bizarre, c'est vraiment. Bref, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je crois que ça serait toujours pas intéressant. Donc revenons un peu à l'essentiel. Ce matin, j'avais un cours avec l'ami Marie, qui est donc une élève de rédacteur pro, et on travaillait sur son site internet. Alors c'est pas son site à elle, c'est celui de la formation rédacteur pro. Elle a choisi un sujet et elle doit développer un site professionnel. Elle a fait un très beau site qui est vraiment très réussi, qui concerne une association qui aide des animaux abandonnés, etc. Et c'est une vraie association, on travaille sur des vrais sujets. Et donc en fait, Marie, on a relu ses textes aujourd'hui parce que c'était l'étape où on vérifiait la cohérence des contenus, le fonctionnement du tunnel de conversion, etc. Histoire d'avoir quelque chose qui marche bien. Et par deux fois, dans le travail, je me suis arrêté pour dire le texte là, il me parle pas, il est bizarre, il me donne l'impression que sauver des chats, enfin c'est un refuge, donc en fait on peut adopter les chats, qu'en fait le but de l'association c'est qu'on adopte ces chats parce que c'est des beaux chats. Or l'association sauve des chats, c'est-à-dire que les chats peuvent être nuls, on les sauve quand même. Donc on n'était pas sur la même énergie et il y a eu une grande discussion comme ça autour de, oui, mais il faut motiver les gens, il faut leur donner envie, on va pas leur parler tout le temps de malheur, on n'arrivera pas à les convaincre. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais venir en sujet, c'est la question des valeurs. On en parle beaucoup dans mes cours, on en parle beaucoup dans le cercle, mais est-ce que j'en parle vraiment beaucoup dans le podcast ou par ailleurs? Là, je rentre sur un chemin, aucune idée de si ça va rester un chemin longtemps ou pas, mais est-ce que je vous en ai beaucoup parlé? Connaissez-vous Jésus? Non, je plaisante. Mais les valeurs, c'est donc l'identité profonde d'une marque. Je pense que si je vais par là, ça va très mal se passer pour moi. On va faire demi-tour. Mais c'est l'identité profonde d'une marque qui est composée dans son ADN par 3 ingrédients qui se complètent et rentrent en dynamique les uns avec les autres, à savoir la vision que la marque a du monde, l'obstacle pour que ce monde advienne et qu'il n'y ait aucun problème et que tout le monde soit heureux dans cette vision, et enfin la mission de la marque pour que la vision advienne en traversant l'obstacle. Voilà, vision, obstacle, mission, on a le triptyque gagnant qui fait que d'un coup on a quelqu'un en face de nous. C'est ça qui fait aussi que vous aimez certaines personnes et pas d'autres. Vous le savez pas, mais c'est des gens qui expriment des visions. Et c'est ce qui va s'articuler comme ça, de marque ou d'individu ou de personal branding ou ce genre de choses. On va articuler ça. Donc, faut-il, sur un site internet, Rester entièrement dans l'angle de la mission, par exemple dans le cas d'adoption de chatons ou de chats, faut-il parler de sauvetage, du fait qu'on fait du bien, du fait qu'on répare le monde, du fait que les choses sont difficiles pour les chats qui souffrent énormément, faut-il aller jusqu'au bout de ça, ou alors peut-on parler de « vous allez adorer la compagnie des chats, ça va vous faire plaisir, profitez de la vie, soyez heureux avec des chats, allez-y, kiffez ». Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on trahit la valeur quand on fait ça ou pas ? C'est une question qui est absolument fondamentale pour les rédacteurs web. Vraiment, je vous le dis. On est à 5 minutes 46, vous comprenez pourquoi je commence à vous parler de ça. Mais c'est fondamental, c'est la question de la cohérence de la marque. Une marque se doit d'être profondément cohérente pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir communiquer. On doit la comprendre. Et on doit la comprendre non seulement dans ses discours, mais aussi dans ses images, dans la forme de son site internet, dans sa navigabilité, dans les outils proposés en ligne, et aussi dans les produits et les services. D'accord ? Si vous avez un site qui incarne la valeur et le partage, le respect et autres, vous ne pouvez pas faire des produits qui sont chers, de luxe et clivants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit avoir une démarche fédératrice profonde pour fonctionner. Mais parce que le produit et le site et la communication sont des incarnations de la marque. Donc, la marque en elle-même et ses valeurs permettent de générer des objets. C'est comme ça que, ce doit faire 2-3 jours peut-être, il y a eu une mise à jour des téléphones portables d'Apple vers la nouvelle version, je ne sais plus laquelle c'est, 17.2, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, on est passé du point 1 au point 2. Et le point 1 au point 2, ça a mené à l'arrivée d'une nouvelle application gratuite offerte à tout le monde qui s'appelle Journal. Alors, on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce truc, c'est pas intéressant. Mais en fait, Journal est une incarnation des valeurs d'Apple. Apple, en ce moment, est en train de faire un tournant. C'est pas un tournant, c'est pas une trahison de ses valeurs, mais il est en train de s'ouvrir à la santé. Sa valeur est l'idée que l'humain est quelque chose de créatif, de grand, de valorisé, de puissant, etc. Et que les technologies doivent lui permettre d'aller au bout de ses expressions de lui-même, quelque part. C'est l'humain augmenté, mais la version la plus humaniste possible, j'ai envie de dire. Donc, je pourrais vous en parler longtemps, mais ce n'est pas tant le sujet. En tout cas, il y a une dimension humaniste qui est de dire que les technologies doivent être au service de l'humain et de son vécu, parce que l'existence humaine est quelque chose de sacré pour Apple. D'accord ? Donc, on doit pouvoir vivre et s'exprimer librement. C'est un idéal de bouddhisme, en quelque sorte, parce que Steve Jobs était bouddhiste, donc il a foutu ça dedans. Mais voilà, donc pour le coup, en fait, j'ai une application qui apparaît, qui s'appelle Journal. Et Journal, on me dit, écrivez un journal intime. Alors je me dis, bon, pourquoi tu m'ordonnes ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Est-ce que vraiment je suis pas gentil avec toi pour que tu me punisses comme ça ? Qu'est-ce que ce journal vient faire là ? Et donc on ouvre l'application Journal et il dit oui, écrivez des choses intéressantes. Alors il vous donne des pistes pour vous motiver. Parlez-moi de la chose la plus intéressante qui s'est passée aujourd'hui pour vous. Mettez une photographie qui vous représente vraiment. Parlez-moi de ce souvenir. Il va chercher des photos dans votre photothèque. Il dit parlez-moi de ce souvenir, racontez-moi quelque chose. Etc, etc. Donc, parlez-moi de cette musique. Vous avez découvert un nouveau morceau. Cet album, vous venez de le mettre dans votre bibliothèque. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ? Parlez. Et c'est un journal. Je veux dire, c'est pas quelque chose... C'est pas un réseau social, à ma connaissance. On peut pas le partager avec quelqu'un d'autre. Ça serait peut-être hyper intéressant de le partager avec quelqu'un d'autre parce que ça deviendrait un réseau social, en fait. Mais je crois pas que ce soit le projet. Le projet, c'est vraiment l'expérience du journal intime. Donc... Pourquoi Apple me propose ça ? C'est quoi l'intérêt ? J'achète pas un téléphone pour avoir un journal intime. Et c'est là où on se dit, c'est marrant, j'achète pas non plus une montre pour avoir des exercices de pleine conscience. Ou des exercices de respiration méditative. Ou des études, je sais pas trop comment le dire, des, comment dire, des relevés d'informations, des analyses de ma santé permettant de déterminer mon niveau de santé mentale. Ce genre de choses, est-ce que vraiment j'ai demandé ça à ma montre ou à mon téléphone? Quel est le sens? Et le sens ne choque aucun des utilisateurs Apple parce qu'ils savent que Apple prend soin d'eux, mais pas de manière bête. Il accompagne les efforts pour aller bien dans la vie, pour profiter, pour développer, pour vivre des choses, etc., etc. Il accompagne le mouvement. Le téléphone accompagne une vie positive et réussie. C'est un peu ça, quelque part. Donc, c'est un peu un idéal américain de protestantisme, si on y réfléchit. Mais Apple, c'est des produits qui vous accompagnent. C'est pas des machines. On s'en fout des machines. L'idée, c'est ce qui vous accompagne, ce qui va vous changer. Donc, racontez des choses. Alors, vous pouvez raconter un truc ou deux dans votre journal et vous dire « Ouais, ça m'ennuie de le faire. » Et puis un jour, vous rouvrez le journal et vous voyez que vous vous êtes laissé des notes à vous-même quelque part. Et là, vous vous dites « J'ai un espace à moi dans lequel je peux écrire des choses, parler de mes projets, de mes envies, parler de mes douleurs, mettre des photos et raconter quelque chose de moi. » Et ben ça, c'est une thérapie, en fait. Ça, disons que ça a des vertus thérapeutiques reconnues. Je ne dis pas que c'est une thérapie en soi, mais tous les thérapeutes, à un moment donné, quand ils sont face à quelqu'un qui est en dépression ou autre, ben ils lui disent « Écrivez un journal intime, ça va vous aider. » ça aide vraiment, ça aide. Mais voilà, donc... Ce truc apparaît et en fait, il est complètement aligné. Il est complètement aligné avec Apple. D'accord ? Apple m'a pas sorti une nouvelle fonction qui permet de faire pouette chez quelqu'un. Je lui envoie sur son téléphone et ça fait pouette. Je dis ça parce que ça a existé pendant un temps. Je sais plus comment ça s'appelait, il y avait une application qui s'appelait Hey, je crois. Dans mes souvenirs, c'était POC ou Hey. Et c'était la seule chose qu'on pouvait envoyer à l'autre. POC, c'était sur Facebook, mais il y avait la même chose sur iPhone et sans doute sur Android. On s'envoyait des Hey. On recevait un truc, il y avait marqué Hey, machin vous dit Hey. C'est tout. Donc, il n'y a pas ce genre de choses. Chez Apple, on peut envoyer son rythme cardiaque à quelqu'un. Grâce à la montre qui relève le rythme cardiaque, on peut envoyer le rythme cardiaque à quelqu'un qui, grâce à la montre toujours, parce que l'autre doit avoir une montre, va ressentir sur sa peau le battement de mon cœur. Ça, c'est Apple. Une manière de dire, il n'y a pas forcément besoin de mots pour exprimer ce qu'on ressent. Voilà, je t'envoie mon rythme cardiaque. Ok, mais alors des poètes ou des machins, non. Il y a toujours un alignement sur le fait que les choses nous grandissent. Rien dans le téléphone, rien même dans les films ou les séries qu'ils proposent ou les dessins animés pour enfants n'est pas là pour nous faire grandir d'une manière ou d'une autre, philosophiquement ou autre. Il y a toujours cette notion-là. Il n'y a jamais de bête et méchant. Il y a toujours quelque chose qui touche à la culture ou autre. Là, en ce moment, c'est Monarch, par exemple, la série télé que Apple propose, qui est en lien avec le fait que on fait la première série basée sur Godzilla. Et pour le coup, on fait revivre et on restitue la valeur profonde, quelque part, de Godzilla, les racines, la reconnaissance japonaise. On la remet, en fait, on fait une espèce de pont parce qu'il y a eu une scission dans l'histoire de Godzilla entre les Américains et les Japonais. Et Godzilla, c'est... Bon, je pourrais en parler longtemps, mais Godzilla, c'est le symbole de la bombe nucléaire. Quelque part. Dans les films, dans les premiers films et dans quasiment tous les films japonais, Godzilla est lié à la bombe nucléaire américaine. Donc vous sentez déjà la petite tension. Et donc les Américains ont refait le film Godzilla, où bien sûr ça ils l'ont omis. Bon, Monarch est un peu là pour faire le pont entre les deux et pour donner un lore, un background, les réexplorer dans le respect de l'histoire, c'est-à-dire c'est pas chez Apple qu'on va trouver une trahison, on va trouver au contraire des fondations ou des réparations. Donc on est sur des produits qui nous étonnent pas et pourtant ils sont tellement divers et variés, mais tout est aligné. Et les discours, c'est pareil, les articles, c'est pareil. Il y a des contenus qui existent notamment dans l'App Store, il y a des contenus qui permettent d'avoir de l'actualité sur des choses, c'est super, c'est toujours le même alignement. Donc, Si les plus grands font tout pour ne faire aucune fausse note, pourquoi nous, en tant que petits, on pourrait se dire qu'on a le droit, que c'est pas grave de respecter les choses jusqu'au bout ou non? C'est pas pour faire la leçon, c'est pas ça. Mais c'est pour dire, les efforts coûtent cher, mais le résultat est là. La marque devient convaincante quand, de bout en bout, elle est alignée avec ses valeurs. Donc, ce matin, j'ai pris ChatGPT, je lui ai donné des valeurs, je lui ai donné la partie du texte que je trouvais hors des valeurs, et il nous la réécrivait à l'intérieur des valeurs. Donc, il y en avait une, notamment, qui présentait les petits pensionnaires de l'association, les chats adoptés, qui ont été sauvés, donc. Et le discours était un peu du genre... vous allez adorer vivre avec ces petits chatons, regardez comme ils sont mignons, craquer pour eux, qui est compréhensible. On essaye de rendre le produit, entre guillemets, là c'est des chats, on essaie de le rendre attractif, sauf qu'on est dans une association qui sauve des chats. Donc qui les récupère décharnés, mal dans leur peau, avec un œil en moins. Et ça, c'est impossible de convaincre des gens de prendre un chat, si notre discours était de dire qu'il était mignon et adorable, alors que peut-être le chat crache sur tout le monde, miaule tout le temps, ne fait plus confiance à un humain parce qu'il a été martyrisé, etc., etc. C'est impossible. Donc, on reprend le texte, on le transforme, et il devient « Voici les chats qu'on a sauvés. Aujourd'hui, ils sont en sécurité et c'est un bonheur pour nous. Et nous cherchons des familles d'accueil ou des adoptions définitives. » pour leur permettre de continuer leur chemin avec nous, mais cette fois-ci avec des humains qui tiennent leur promesse de protecteurs. Donc, on change la donne. Simplement, vous pouvez de temps en temps vous dire qu'il faut sacrifier la valeur à l'argument de vente. Parce que vous n'arriverez jamais à vendre ce truc si jamais vous restez dans les clous. Bon, le truc qu'il faut comprendre avec la valeur, c'est qu'elle s'aligne avec un destinataire. Il y a quelqu'un d'autre, quelque part, qui a la même valeur. Il a le même principe, d'accord ? Les gens indignés par le fait que les chats sont martyrisés par des gens, abandonnés, massacrés, ou ce genre de trucs, c'est des gens qui vont être en adéquation avec l'association qui est là pour les protéger, et qui veut les protéger. Donc, il y a une adéquation entre les deux. Si je change une partie de mon texte, eux, je les perds. Parce qu'ils vont me dire, ouais, bah d'accord, ok, toi tu récupères des chats, mais ton but, c'est surtout de les refourguer, peut-être même de gagner un peu d'argent au passage, c'est ça, tu fais du commerce. Et donc on les perd parce qu'on les trahit. Eux, ils étaient là pour sauver des chats qui en avaient besoin, et là, il y a quelque part une sélection qui dit que, on n'accepte pas tous les chats, parce qu'il y en a qui sont pas donnables, ils sont trop pas beaux, quoi. Non, l'association c'est tout l'inverse, elle a récupéré tous les chats dont les personnes ne voulaient plus pour les donner aux gens. Donc en fait, si elle trahit sa parole à la fin pour essayer de parler d'enthousiasme, d'envie, de faites-vous plaisir, elle va convaincre les gens qui n'adhéraient pas à ses valeurs d'aller chercher ailleurs parce que ces chats ne sont pas beaux. Enfin, elle n'a pas de sélection sur la beauté des chats, elle répond à l'appel à l'aide des chats. Donc les chats, ils sont ce qu'ils sont, et donc, quelque part, les gens qui veulent un chat mignon vont aller en chercher un, là, je sais pas, sur le site à côté qui s'appelle monplusbeauchat.com, d'accord ? Et ceux qui, par contre, eux, venaient pour sauver les chats, vont avoir l'impression d'être trahis, et de se dire, oui, ben ça, c'est une personne pas sérieuse, qui essaye de faire croire qu'elle fait du bien aux animaux, mais en fait, elle en a rien à fiche. Ça ne l'intéresse pas. Non, mon chien, je te vois, mais on va faire demi-tour. Allez, viens, on repart en arrière. J'ai un cours dans une heure. On n'a pas le temps de faire la longue balade de 8 km, elle va faire la gueule. C'est pas grave. Et donc, on ne rend service à personne. Une marque envoie un signal, d'accord ? Imaginons le bat signal. Voilà, vous avez d'un coup un symbole de la marque dans le ciel et certaines personnes, les élus, se lèvent et disent « c'est le signal ». Voilà. C'est très important parce que plus la marque exprimera ses valeurs, c'est-à-dire vision, obstacle et mission, plus elle parlera des obstacles où les gens s'indigneront en disant « Mais oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, il y a cet obstacle », plus elle parlera de sa vision et les gens disent « Oui, ça c'est la vérité, c'est ça ce qu'il faut que ça advienne ». Et plus elle parlera de sa mission et les gens diront « Oui, on vous soutient, bien sûr, on vous donne des choses », eh bien, on va avoir à ce moment-là un vrai alignement dans le style. J'ai vu sur LinkedIn une jeune femme qui fait, alors j'ai pas noté son nom, je suis pas sûr, son podcast, elle fait un podcast qui s'appelle Parlons deuil, parlons mort, parlons quelque chose comme ça. Je retiens pas, je suis désolé. Mais en même temps, je suis pas la cible. Mais c'est une personne qui avait l'air géniale. Et elle a fait un podcast qui est basé sur le deuil post-accouchement, si j'ai bien compris, donc les gens qui ont perdu leur enfant à l'accouchement. Et j'imagine même pas le massacre que c'est dans le cœur des gens. Et donc elle en fait un podcast, elle donne la parole à des gens, elle essaye de donner du sens, elle travaille là-dessus en tant que infirmière ou personne qui a été confrontée à cette problématique, je ne sais plus. Donc en tout cas, elle travaille là-dessus. Et elle a envoyé un message justement pour dire aux gens, voilà, on va arrêter ce podcast parce qu'il rapporte rien et que moi, je peux pas continuer à consacrer des heures pour chaque épisode, des heures, plusieurs heures pour faire un épisode entre l'enregistrement, la maquette, le montage, la mise en ligne, le soutien, les réseaux sociaux. Je ne peux pas faire ça. Donc, elle dit, je comprends que beaucoup de gens s'appuient dessus. En plus, on a des belles audiences. Donc, vraiment, ça sert à des gens. Et puis, c'est très utile. C'est même d'utilité publique, ce que je fais. Ça a été reconnu comme tel. Mais ça ne rapporte rien. J'ai fait un modèle. J'ai proposé des dons, des trucs. Ça ne marche pas bien. Donc, on va... Alors, elle parle de refaire un peu les choses. Elle dit, moi, on a essayé de demander aux gens de donner de l'argent. Mais ça ne marche pas. Donc, les gens ne veulent pas financer. C'est son ressenti, si j'ai bien compris. Et de l'autre côté, elle dit, ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir des entreprises et on va leur dire, hey, financez notre podcast, on va parler de votre produit ou de votre service, qui sera bien sûr en lien avec le domaine médical et avec le domaine de la santé mentale. Et on va financer comme ça le podcast. C'est une manière, vraiment, je la comprends. Comment vous dire, on n'est pas dans un monde... Là, par exemple, vous m'écoutez, c'est génial. Mais on n'est pas dans un monde où on croule sous les félicitations des gens. Les gens ont été sollicités et sursollicités pendant 20 ans sur les réseaux sociaux à liker, partager, mettre la cloche, faire des commentaires, faire des compliments, exprimer son bonheur. Bon, à un moment donné, voilà, ça n'a plus de valeur pour les personnes qui le font. Et pour les producteurs de contenu, j'en parlais avec quelqu'un qui fait des contenus qui sont aussi assez appréciés, les statistiques sont là, mais les retours, non. C'est finalement, les gens attendent un peu le one-to-one pour en parler, c'est-à-dire ils viennent vous voir à un moment donné où ils vous, au téléphone à l'occasion, ils disent « Ah, vous savez, j'ai écouté vos podcasts, ah bah merci, c'est gentil ». Voilà, il y a un échange qui se fait, mais la démonstration publique est assez peu là. Et donc elle a vécu ça aussi en disant « On a des retours de quelques personnes, c'est chouette, mais globalement, vous écoutez, puis vous partez. Et on était dans une société de consommation avant l'arrivée des réseaux sociaux. Il faut se souvenir de ça. Hein. On était sur la télévision qui délivrait gratuitement sans qu'on lui demande des choses. On était sur le journal, voire même les journaux gratuits, n'est-ce pas? Les métros et compagnie. Ah zut, il y a quelqu'un qui a un chien. Et la mienne, elle est partie, je sais même pas où. Bon, oh là là, ces deux énormes mastodontes, trois, mon Dieu, c'est pas grave, on va attendre le chien. Et même pas où elle est. Donc oui, il y avait cette période où tout était gratuit et où tout pouvait fonctionner très bien. Et on se posait pas la question de s'il y avait quelqu'un derrière ou pas. J'avais un ami qui travaillait à Métro, qui était le journal gratuit. Bonjour. Et Métro était le journal gratuit et personne ne connaissait la signature de mon pote qui était journaliste là-bas, ce qui était dur pour lui. en quelque sorte. Ah bah là voilà la louloute. Allez, dépêche. Allez, vas-y, cours. Et on a vécu dans ce monde gratuit. Vous vous en souvenez? Et d'ailleurs, aujourd'hui, Google, tous ces outils sont gratuits. Google Actualité, tous les journaux donnent des tonnes d'articles gratuits. Vous avez des vidéos sur YouTube gratuites. Vous avez... Bref. On est resté dans l'ère du gratuit, mais on a complètement perdu de vue ou pas repéré qu'il y avait des créateurs de l'autre côté qui tentaient d'entrer en contact avec les gens, qui voulaient quelque part avoir une reconnaissance, un partage avec ces gens, et qu'ils n'avaient pas. Donc c'est très décourageant. Voilà, je pense à tous les youtubeurs qui donnent des conseils en disant « L'essentiel, c'est la régularité, il faut être régulier. » Oui, oui, parce que tu ne vas pas être encouragé. Tu ne vas pas être soutenu. Enfin, tes fans, ils vont mettre du temps à te trouver, et puis ils vont mettre du temps à s'exprimer, et puis ça va se construire doucement. Donc oui, c'est compliqué. Mais... dans l'idée, en tout cas, cette femme partait de l'idée que il lui fallait des mécènes, parce que finalement, elle avait, j'ai regardé, elle gagne, je sais plus, 200 balles par mois, et elle sort plusieurs épisodes. C'est dur, c'est vraiment... Enfin, il y a un moment où on a juste l'impression qu'on se fout de nous. Même s'il y a des gens qui donnent, hein, c'est juste que bah, si tous ceux qui écoutaient donnaient 1 euro, ça, le problème serait réglé. Elle aurait suffisamment d'argent, mais non. Et ça, il faut même pas s'en formaliser, comme je le disais, parce que les gens sont juste partis de l'idée que tout est gratuit. Quand on leur dit « vous pouvez donner », quand on vous dit à vous « vous pouvez donner », vous pouvez faire un don. Vous pouvez faire un don, vous pouvez donner un tip, vous pouvez donner un peu d'argent. Vous le faites jamais, on est d'accord. Je veux dire, c'est rarissime, ou alors c'est seulement les grandes stars qui sont soutenues, mais globalement, on donne pas. Et ça se questionne, hein. Il y a des cultures, comme aux États-Unis, où c'est évident qu'on donne le tip. C'est vraiment quelque chose qui est rajouté sur toutes les factures, sur tous les services, dans les restaurants, etc., etc. Dès que quelqu'un vous sert, il y a de l'argent à donner à cette personne. C'est vous qui la rémunérez pour la hauteur de son service. Donc c'est dans leurs mœurs à eux, c'est pas dans nos mœurs à nous. Donc finalement, en fait, cette personne décidait de partir. Et moi, je lui ai dit, bon, en fait, il faudrait peut-être revenir aux valeurs. C'est-à-dire, je fais un podcast qui parle du deuil post-natal, très dur. Il y a une audience qui est intéressée, il y a des gens qui sont là. Eh ben, allons les chercher, mais cette fois-ci, à la place de leur parler de type et de donner de l'argent, soutenez le podcast qui ne marche pas. Hein. Je vous rappelle que ReLife, qui était un de mes podcasts préférés avec... Matt et Guillaume qui géraient ce truc-là et c'était vraiment génial, et ben ils ont arrêté en disant « Oui, oh, on tourne en rond. » En fait, il n'y a pas de fric. Je ne sais pas combien ils gagnent d'argent. Je crois que j'étais allé voir, il y avait une page de dons. Je crois que c'est Patreon, je ne sais plus, qui avait pas grand-chose. Alors pour le coup, en fait, on est des centaines ou des milliers à écouter et puis finalement, personne donne. Donc en fait, le bon raisonnement, je lui avais dit, c'est peut-être finalement la démarche de Y Penser, qui est la chaîne sur YouTube, qui propose de financer 1 an d'avance. Voilà, qui dit, je vous propose l'année 2024, on va mettre des types en place, vous allez pouvoir crowdfunder ça, j'ai besoin de 20 000 balles, il en a eu 160 000, hein. J'ai besoin de 20 000 balles pour mes projets, voilà ce dont j'ai besoin, et puis voilà les contreparties que j'ai. Si jamais vous donnez de l'argent, voilà ce que j'offre en plus. À partir de tant et tant d'argent, je rajoute une émission, puis 2 émissions, puis 3 émissions. Je veux dire, là, il a tellement pété les scores qu'à mon avis, il pensait, on va le voir du janvier à décembre, hein, en train de faire la fête. Mais voilà, on a eu aussi l'exemple auparavant de Chroma, Karim Debbache, qui avait annoncé qu'il allait qu'il allait demander un financement pour faire une émission spéciale sur le cinéma, et tout le monde adore Karim Debbache, c'est un créatif, un des meilleurs, qui aujourd'hui n'est plus que sur Twitch, à ma connaissance, et il a demandé 20 000 balles, il en a eu 200 000, donc on se dit, qu'est-ce que tu fais avec 200 000 balles? Il a fait 12 épisodes, c'était incroyable, c'était légendaire ces épisodes, ils sont toujours disponibles, ça s'appelle Chroma, C-H-R-O-M-A, mais en tout cas, il y a une énorme cohérence dans l'histoire, au fait de financer un podcast sur le deuil post-natal. Voilà, j'ai des projets, j'ai envie de vous donner des écoutes, j'ai envie de vous donner de la place, j'ai envie de faire plein de choses, je vous propose de me financer, j'ai besoin de 10 000 balles, mettons, hein, pour 1 an de travail sur ce podcast, financez-le de manière à ce qu'il y ait suffisamment de gens pour, voilà, pour que ça existe. Et une fois que j'ai mon argent, une fois que c'est validé, je sais si je dois faire 2 épisodes, 3 épisodes, 5, 10, ça dépend de combien les gens ont payé. Et je pense que moi, qui ne suis pas dans cette thématique, si j'y étais, si vraiment j'étais concerné par le deuil post-natal, Dieu, si tu me regardes, hein, tu me fais pas ce coup, ben à ce moment-là, je pense que je lui mettrais 100 balles sur le compte en disant « Vas-y, tu me fais du bien, ton podcast, il me fait du bien, j'ai besoin d'entendre ce que tu vas raconter. J'ai aussi, je connais cette souffrance, j'ai besoin que d'autres sachent que tu existes et que tu apportes quelque chose d'important. Je veux te financer parce que ça me fait du bien de t'entendre et je veux que ça fasse du bien à toutes les personnes qui traversent la même chose que moi. » Donc je paierai, il y a quelque chose d'évident au fait de payer en avance pour que quelque chose existe. Le fait de payer, de soutenir le créateur, il y a un rapport que je trouve ambigu qui donne l'impression que si on le fait pas, c'est pas grave, de toute façon il va pas s'arrêter, oh là là, on en fait tout un foin, et pendant ce temps-là, on lui envoie tellement de signaux négatifs. Vaut peut-être mieux financer les choses qu'on veut voir pendant l'année. Ça peut être beaucoup plus sympa, je trouve. Enfin, quelque part, je me dis, hein. J'en sais rien. Mais on est toujours dans cet alignement. Je sais, je dérive beaucoup, mais en même temps, je parle toujours de la même chose. C'est dans ses valeurs de faire ça. Ça a du sens de dire aux gens « Je veux passer du temps à vous aider, j'ai besoin que vous m'aidiez à le financer. » Si vous trouvez que ce que je fais peut avoir de la valeur pour vous ou pour d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses que vous, participez à faire naître ce podcast pendant le temps nécessaire, etc. etc. Donc, moi, je trouve que ça fonctionne. Et c'est constant. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a ces valeurs, en fait, tout s'aligne, à condition de ne jamais les trahir. On a des exemples hein, d'entreprises qui ont trahi leurs valeurs. On a, je sais pas, Microsoft, par exemple, qui a sorti le produit Zune. J'y pense de temps en temps à lui. Muse, Zune, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Zune, Z-U-N-E. Et qui était le concurrent à l'iPod. À l'époque, en 2001, et qui a été un four monumental. Pourquoi ? Parce que Microsoft n'a jamais été dans le domaine de la musique. Mais jamais. Il s'est jamais intéressé aux musiciens. Il a jamais tenu, d'ailleurs, à soutenir les musiciens. Il a jamais fait comme Apple, à créer des logiciels gratuits pour les musiciens. Il n'y a rien de tout ça. Donc, pour le coup, je rappelle mon chien parce que je vois en face, ils ont un petit chien tout fou, mais ils l'ont lâché. Et c'est toujours la même question. Si tu as un rappel parfait, si ton chien obéit au doigt et à l'œil, alors tu peux le libérer. Sinon, il reste en laisse. Et les gens ne respectent pas ça, donc les résultats, mon chien, il se fait régulièrement bomber et il doit s'en sortir et c'est la galère. Oli, viens ici tout de suite. Je vais l'attendre. Je dis ça et puis elle me fout un vent. La sale bête. Je vous jure que normalement, elle obéit très très bien. Promis. Mais bon. En tout cas, le Zune n'était pas aligné avec les valeurs de Microsoft, donc plantade direct. D'accord ? Quand vous regardez un Mac, il est passé où ? Quand vous regardez un Mac, en fait, ça fait 20 ans qu'il y a des logiciels gratos qui sont rajoutés. Oli ! Oli ! Tu viens ici tout de suite. Dépêche-toi. Allez, voilà, ça y est, elle se manie. Dépêche. Ici tout de suite. On va laisser passer les gens, mais Apple, c'est Oli, stop. Viens ici, reste. Allez. Pas bouger. Oli, bouge. Allez. C'est... Bonjour. Ça me stresse toujours. Désolé. Les gens, vous savez, les laisses à rallonge. La personne, elle tient le chien et puis en fait, elle le laisse aller. Et le chien, après, il fonce vers le chien. Et ils disent, oui, mais ça va, il est gentil. Et ma chienne, des fois, elle attaque. Donc, c'est compliqué. Là, elle était entre mes jambes. Je l'avais immobilisé pour qu'il passe et la personne laisse aller son chien. Il n'y a pas d'éducation, hein, je crois, sur les chiens. Enfin, sur les maîtres de chiens, on n'a pas de code. Il faudrait qu'on transmette des codes comme ça, qu'on ait une pratique, qu'on sache comment il faut se comporter. Parce que Vraiment, les maîtres sont aussi novices que les chiens. Bref. Donc le Zune n'a pas fonctionné parce que Apple, de son côté, organisait un festival depuis très longtemps, distribuait de la musique gratuitement, avait mis en place son iPod qui était une espèce de révolution musicale, mais c'était des artistes. Je veux dire, Apple, c'est en lien avec Apple Records, le studio d'enregistrement qui a fait les Beatles, etc. Steve Jobs était fan de Paul... C'est pas Paul McCartney, zut, l'autre. Le guitariste folk qui s'est mis au rock, et j'ai plus son nom, le poète. Désolé, bref, en tout cas, il y avait toute une mythologie autour d'Apple, autour de la musique, qui faisait que la plupart des musiciens utilisaient déjà des Macs dans la création musicale. Donc quand l'iPod est arrivé, c'était une il y avait la certitude que le produit respectait tout, et que donc, en fait, il était un symbole de la musique. C'est devenu d'ailleurs un véritable symbole social de ça. Et Microsoft est arrivé en disant « Bah nous, on a fait Zune !» Et les gens ont dit « Ouais, ok, ben pose-le là si tu veux. » Et terminé. Et Microsoft se retrouve régulièrement dans la galère avec ça, parce qu'il n'incarne pas de valeur particulière, hormis celle de faire des bons logiciels, des bons ordi, des bons trucs. Mais les tablettes Microsoft ne racontent rien. Les Surfaces, elles accrochent pas. Les gens n'adhèrent pas à ça parce qu'il n'y a pas de valeur derrière. Alors que Apple a des valeurs d'ergonomie, des valeurs d'accessibilité, des valeurs de puissance, des valeurs de finalisation qu'il met en avant tout le temps. Mais Microsoft ne met pas ça en avant. Donc les Surfaces, qui sont des bons produits, hein, ne marche pas. Donc, commercialement, ils n'arrivent pas à les lancer, ça ne s'installe pas. Le Microsoft Phone, là, le Windows Phone qu'ils avaient sorti, n'a pas marché. Parce que le marché était déjà saturé, mais parce que personne ne faisait confiance à Microsoft, qui n'avait aucune valeur dans la communication, lier les êtres, essayer de rendre la société meilleure. Il n'y avait rien de tout ça. C'est juste, on s'appelle Microsoft, on a sorti un téléphone, parce que nous, c'est les logiciels. Ça, c'est pas vendeur, ça racontait rien. Donc, si je prends ces exemples-là, on voit que le produit même n'a pas de sens. Là où aujourd'hui, Microsoft a changé considérablement, il a beaucoup retravaillé tout son branding, ce qui est très impressionnant, soit en passant, parce qu'aujourd'hui, quand on dit Xbox, on a Xbox Game Pass, on a les énormes studios que Microsoft a rachetés, Bethesda et compagnie, qui sont des monstres dans le domaine. Et donc Microsoft aujourd'hui devient un acteur majeur, sinon totalement incontournable du jeu vidéo et de la démocratisation du jeu vidéo. Et ils viennent en disant quoi ? Nous, c'est les logiciels, les jeux vidéo, c'est des logiciels, c'est chez nous. Et ils ont raison. Ils ont raison. Ils ne sont pas encore des grands producteurs de studios, mais je crois qu'on peut compter Halo comme une création Microsoft, etc. Donc, il y a quand même des grands jeux qui sont sortis. Donc, Microsoft arrive à mettre des points là-dedans. Mais c'est dur. Pour la plupart du temps, pour la plupart des gens, Microsoft, c'est quoi ? C'est Windows, Office, Word, Internet Explorer, Edge, j'en sais rien, des trucs comme ça. Et finalement, assez peu de gens connaissent Microsoft Azure, par exemple, qui est le deuxième fournisseur d'hébergement Internet au monde, hébergement et accès, infrastructure, qui est colossal. Je veux dire, il y a des intelligences artificielles qui sont incroyablement puissantes. Microsoft Azure, il est très connu dans le domaine de l'entreprise. Mais chez les particuliers, ben, c'est par Xbox qu'ils arrivent à y aller. Ils commencent à travailler le branding de la marque Xbox. Enfin, ils commencent. Ils font déjà des grands trucs, ils font des grands festoches, ils font des grands stands. Ils commencent à mettre un peu le feu là-dedans. Ils ont trouvé un truc qui a de la valeur. Mais c'était compliqué parce que Microsoft n'a pas de valeur en soi. Dans le sens, pas de discours idéologique. Il n'y a rien de tout ça. Là où Steve Jobs, juste regardez les publicités de Noël, je les passe à mes élèves pour leur montrer justement le branding. Regardez, chaque année, Apple nous sort sa pub de Noël qui est faite par un très grand réalisateur avec des moyens extrêmement poussés. Là aujourd'hui, je crois que cette année, c'est du stop motion en pâte à modeler et c'est magnifique comme petite histoire. Et il n'y a pas de produit. On ne voit pas les produits Apple, il n'y a pas besoin. Apple, c'est l'état d'esprit, c'est pas le produit. Il suffit qu'ils fassent un film, même s'ils ne montrent pas spécialement de produit, ça parle d'eux quand même. Et c'est ça les valeurs. La puissance de frappe d'Apple est dingue. Elle est dingue quand on sait que 90% des Américains de moins de 20 ans ont un iPhone. elle est dingue en termes de pénétration, en termes de conviction, en termes d'engagement, en termes de durabilité. Les gens disent, oui, les gens chez Apple, ils sont prisonniers de la marque. Ils ne sont pas prisonniers, ils sont à l'abri à l'intérieur de la marque. Ils sont réfugiés dans une marque qui les protège. Ils ne se posent pas la question de savoir si on essaye de les enfumer ou pas. Si vous avez une application qui vous arnaque chez Apple, vous le dites à Apple, ils vous remboursent immédiatement. Vous êtes protégé de quasiment tout. Alors, ce n'est pas parfait non plus, mais voilà, pour ceux qui achètent chez Amazon parce qu'il y a un service après-vente exceptionnel, dans le sens où ils sont toujours d'accord pour vous rembourser, ce qui est quand même vachement pratique, quand on achète des trucs à distance, ben là, c'est pareil. Chez Apple, vous allez avoir, ben, comme je disais, là, une mise à jour, paf, une nouvelle application qui me veut du bien, que j'utiliserai ou pas, voilà. Moi, j'ai un petit projet, j'ai envie de parler de l'évolution de quelque chose dans ma vie, donc je vais l'utiliser pour ça. Et ça va me permettre d'avoir un vrai suivi qui va me permettre d'avoir un peu de recul dessus, etc. Donc ça m'intéresse. Mais voilà, on attend aussi les intelligences artificielles des uns et des autres, parce que Microsoft propose de mettre Copilot partout. Les premiers retours, c'est bah, ça sert pas à grand chose. Hein. La plupart du temps, on n'en fait rien de Copilot. Donc bon, mais peut-être que si, peut-être que non, j'en sais rien. C'est juste que c'est pas mûr, c'est pas prêt, c'est pas réfléchi, c'est une course à l'échalote, c'est tout. Donc bon, ça sert pas à grand chose. Mais Apple va arriver très certainement sur ce marché, parce que ça fait déjà quelques années qu'ils sont dessus à le préparer. Et ils vont proposer quelque chose qui va avoir des valeurs. Et vraiment, hein, je vous jure qu'il n'y a pas plus de différence. Vous prenez n'importe quel produit Apple, un téléphone ou n'importe quoi, vous le mettez à côté d'un produit Microsoft ou d'un produit Android ou d'un produit Google ou j'en sais rien, vous avez en permanence quelque chose qui est pareil. C'est globalement pareil ce qu'on fait avec un iPhone et avec le reste. Mais il y a des gens qui ne jurent plus que par ça, qui ne veulent absolument aucune autre marque parce que celle-ci a résolu tous leurs problèmes et celle-ci les comprend. Et cette notion de compréhension est essentielle. C'est essentiel de se sentir compris par les marques autour de nous. Essentiel de sentir qu'on est en accord avec elles, qu'elles nous incarnent, qu'elles nous projettent, qu'elles donnent du sens à ce qu'on fait. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment fondamental et important d'incarner la marque en permanence. Qu'elle puisse toujours avoir du sens, qu'elle puisse toujours être prévisible et être dans une continuité. Quand un podcast s'arrête, c'est toujours dur parce qu'on se rend compte à ce moment-là que c'était quelque chose d'humain. On était dans les valeurs de la marque et elle nous plaisait et on ne se rendait pas compte. Quand un YouTuber arrête parce qu'il déprime trop, quand il y en a qui annoncent qu'ils vont être plus que sur Twitch et qu'ils arrêtent le reste, quand bah, Villebrequin, par exemple, qui est quand même qui était la plus grosse chaîne de YouTube, la plus grosse et la plus rentable, très certainement, décide d'arrêter parce que les deux, ils se blairent plus ou parce qu'ils en ont marre ou j'en sais rien, enfin, ils se plaignent de trucs. Ça a l'air d'être des problèmes de riches, alors je sais pas. On n'a pas tous les détails. Ben, les deux ont annoncé quoi ? Ben, ils vont sur Twitch et puis ils vont continuer. Il y en a un des deux qui relance une chaîne parallèle, l'autre qui va rester sur Twitch. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, est-ce qu'on est dans les valeurs de la marque ? Est-ce que finalement c'était plus humain qu'il n'y paraissait ? Est-ce que ça a plus de sens ? En fait, en permanence, on est en train de se confondre l'humain et la marque. Si vous aviez conscience que les marques que vous suivez sont en réalité des humains, vous seriez peut-être les premiers à leur apporter de l'argent, du soutien, des messages d'amour, des messages d'encouragement, etc. Quand une podcasteuse qui travaille non-stop et qui arrive à faire des dizaines d'épisodes par an se retrouve à dire ben, « j'ai pas de soutien » ou « je ressens pas de soutien de la communauté mais les gens viennent consommer », je me dis, ben, les gens pensent que c'est une marque. Ils pensent qu'il y a toute une industrie derrière qui travaille dessus et que c'est un produit quelque part. Et ils ne se rendent pas compte de la dimension humaine, tellement les marques ont l'habitude d'incarner des dimensions humaines. Et tellement on est habitué à ce que des marques incarnent des dimensions humaines. Moi, ce n'est pas normal que je regarde une publicité pour Apple et que je pleure. Ce n'est pas normal qu'ils aient voulu que je pleure parce qu'ils ont fait un truc hyper émouvant qui touche à l'humain, qui touche à l'attachement, etc. C'est pas normal qu'une marque fasse ça. Pourquoi ils me disent pas juste « Hey, on a fait un bon téléphone ». Ben ça renvoie au « why » de Simon Sinek. Vous savez, le « tout commence par le pourquoi ». Le meilleur livre de marketing, pour commencer le marketing en tout cas, c'est le meilleur, vraiment exceptionnel. Et il le dit. Il dit, si vous ne démarrez pas par le pourquoi, vous ne racontez rien qui intéresse les gens. On commence par les valeurs, la vision, l'obstacle et la mission. Sauf que les gens, naturellement, ils incarnent la vision, l'obstacle et la mission. C'est en eux, les individus. C'est ce qui leur arrive. Donc, pour le coup, quand il s'agit de théoriser pour en faire une marque, quand Villebrequin décide de devenir une marque, eh ben, il se pose dans un coin et puis il théorise la vision, l'obstacle et la mission. Et c'est comme ça qu'il s'amuse à faire des vidéos de plus en plus fit and fun, de plus en plus impressionnante, de plus en plus bouleversante. Mais c'est aussi comme ça qu'une de mes émissions nouvellement préférées, qui s'appelle The Grand Tour, disponible sur Amazon Prime et sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement illégal, qui est en fait la continuité de Top Gear UK, donc les Anglais, est totalement dingue et je les adore, mais ça dégueule de valeur dans tous les sens. Et c'est complètement ouf ce qu'ils font, quoi. C'est juste des vidéos où on se dit, mais où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi leur délire? Pourquoi ils font ça? Mais est-ce que c'est les jackasses? Mais ils sont malades ou quoi? Mais ils se font des farces entre eux qui peuvent blesser des gens, mais ils sont dingues. Et en même temps, qu'est-ce qu'on se marre avec eux? Quel potentiel d'humour ils ont? C'est complètement fou. Donc c'est vraiment des valeurs. Alors les valeurs, c'est pas forcément des trucs respectables, hein, j'ai pas dit ça, mais c'est des valeurs très très fortes qui font que cette émission, je l'adore. Les émissions qui ont des forts concepts ou qui tournent autour de fortes personnalités, on adore. Et c'est aussi comme ça, d'ailleurs, j'y pense, que Stéphane Plaza, l'animateur de M6, qui a également, qui est agent immobilier, etc., qui, eh ben, il a complètement explosé ses valeurs quand sa femme l'a agressé de violence conjugale, quand ses femmes, plusieurs, l'ont traité de ça, et qu'il y a un procès en cours, etc., parce qu'il y avait toute une chaîne d'agences immobilières qui s'appelait Stéphane Plaza, il y en avait une près de chez moi, qui se retrouve dans l'incapacité de vendre, plus personne n'y va, parce que Stéphane Plaza cogne sa femme. Alors que le gars, il était pété de valeur, je vais te trouver le meilleur appart, je vais te mettre bien, grâce à moi tu vas évoluer, tu vas te sentir bien, tous les jours tu seras heureux, ce qui compte c'est ton bonheur. Et après on apprend qu'il a cogné sa femme, ben, tout s'est effondré. Et aujourd'hui, ces mêmes agences immobilières portent plainte contre lui pour dégradation de l'image publique. La valeur s'est effondrée. D'accord, donc vraiment, hein, je tourne en rond autour de ce sujet-là, je vous donne un maximum d'exemples et j'essaie de vous nourrir de ça. Mais l'idée de fond, c'est, et je finis là-dessus parce que c'est un peu mon point de départ, vous devez respecter en tout temps et à tout endroit la valeur, quelle qu'elle soit. Vous pouvez l'articuler, vous pouvez la rendre positive, vous pouvez en faire des messages d'encouragement, vous pouvez faire plein de choses, mais ne sortez jamais, 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 jamais des rails de la valeur quand vous êtes en train d'écrire pour une marque. N'en sortez pas. Le contrat... Comment est-ce qu'on dit au cinéma? La suspension de l'incrédulité. La suspension quelque chose. J'ai tous les mots. Je vais remettre ça dans l'ordre. La suspension du consentement... Le consentement de la suspension de l'incrédulité. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour dire que Star Wars n'est pas un documentaire. On est d'accord pour dire que ça n'existe pas pour de vrai. Et ça, c'est... On accepte ce prérequis qui est de dire « On va te raconter un truc faux. » Dès qu'on l'a accepté, c'est bon, on roule. Eh bien, les valeurs, c'est pareil. On accepte qu'on va nous raconter un truc faux. Faux dans le sens où c'est une marque qui parle, mais la marque devient un totem. Donc, on est d'accord que la marque devienne le totem et on va l'écouter comme tel. Dès que la marque se trahit, c'est terminé. C'est terminé, le totem est inaudible et toute la marque peut s'effondrer. On a comme ça des grandes marques. L'exemple que j'adore, c'est Portal, qui est l'appareil développé par Facebook, qui était un communicateur, en gros, c'est-à-dire un outil spécialement fait pour la visio. J'en ai deux chez moi, Portal TV et Portal Go. Et c'est vraiment les meilleurs appareils qu'on peut imaginer dans ce domaine. C'est fou comme c'est bien. C'est fou comme c'est bien pensé. Les ingénieurs de Facebook, il y a des interviews d'eux sur Internet en 2018. C'est fou le mal qu'ils se sont donné pour essayer de faire dégueuler cet appareil de valeur. C'est fou, je l'adore, c'est un de mes appareils préférés. Les gens ont dit quoi? Une caméra Facebook chez moi? C'est non. Valeur. Terminé. Les portals sont terminés. Ils n'ont jamais réussi à être vendus. Et c'est uniquement une question de valeur. Ça n'a rien à voir avec le produit. Il était excellent. mais vraiment, hein, vous l'auriez adoré, vous l'auriez connu, il aurait été d'une autre marque, il aurait été avec une pomme, ça aurait été les meilleures ventes du monde. D'ailleurs, aujourd'hui, quasiment les produits Apple ont récupéré, là dernièrement, Apple a proposé une mise à jour de l'Apple TV, l'Apple télé, qui permet de brancher ça, en gros de se connecter son téléphone dessus pour faire des appels en visio directement sur la télé. Et ça, c'est Portal TV. C'était les seuls à le faire auparavant. Maintenant, Apple a récupéré le truc. Et tout le monde est en train de désosser les idées des Portals. C'est fou. C'est fou. Donc, c'est pour vous dire que, avec la valeur, on trouve son public et on vend à son public. Sans la valeur, personne ne veut de nous. Soit les gens se désintéressent de nous, soit les gens, si on a trahi nos valeurs, ne reviendront plus. C'est terminé. Les marques comme WeWork se sont effondrées, les marques comme Microsoft n'arrêtent pas de renaître parce qu'elles n'arrêtent pas de crever, et elles doivent réinventer des choses, et elles doivent réinstaurer des valeurs, rentrer dans le discours, et des marques comme Apple, depuis le début totalement pétées de valeurs, continuent à être en phase croissante sans jamais s'arrêter et toucher la lune, jusqu'au jour où ils trahiront leurs valeurs. Et là, vous verrez l'effondrement d'une marque aussi puissante qu'Apple. Ça ne pose aucun problème à ce que Apple disparaisse du jour au lendemain si elle trahit ses valeurs. Bref, les amis, je vais m'arrêter là. C'est un sujet qui me passionne, vous l'avez compris, parce que le monde est bâti autour de valeurs. J'ai toujours dit que les humains, l'humanité, c'était 7 milliards d'histoires qui se rencontraient entre elles, dont chacune était le héros de l'autre. Et le personnage secondaire de l'autre, pardon. Et les valeurs, en fait, sont d'autant plus d'individus qui sont parmi nous, les marques, et les valeurs permettent cette connexion humaine d'âme à âme, quasiment, qui fait qu'on peut chialer sur une chanson de Taylor Swift. C'est pareil, on la connaît pas, elle est américaine, qu'est-ce qui nous dit qu'elle pense qu'elle pense? Eh ben, les valeurs font tout. Donc, creusez le sujet, mais surtout ne les trahissez pas, parce que la moindre virgule, le moindre mot, le moindre écart, le moindre moment où vous n'êtes pas aligné avec, vous perdez quasiment tout le monde. Attention, c'est notre responsabilité de rédacteur web. Allez, je vous laisse. À bientôt, désolé, ça a été un épisode un peu chaotique. Mais la balade était belle. Allez, ciao!